pleurez vendredi soir.
Super.
Et c'est 4 euros
ouais, la
bouteille. Et vous payez au moment où vous déposez votre bouteille de commande. Voilà.
Okay. Est-ce qu'on peut fermer la porte là-bas, s'il vous plaît, parce que j'ai oublié. Alors, une autre annonce technique. Karina Basualdo et Elena Pulcini me disent de vous prévenir que demain soir, pour les volontaires, sera organisée une soirée féminine, une soirée réservée, consacrée à ceux qui s'intéressent à la question des femmes.
Non. Voilà.
Tu modifies.
C'est pas ceux qui s'intéressent aux femmes. Tu m'as dit de ne pas dire ça.
Bien sûr, elle est en train de constituer un groupe féminin dans le MOS.
Bah, subvertir le MOS de l'intérieur. Tu peux venir.
Tu peux venir en sachant que tu seras subverti.
Mais ça, c'est pas un cadeau.
Tu tiens ton titre, quoi. J'ai lancé un point de vue monsieur. Bon, d'accord. Ah, bah oui, 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 effectivement, c'est voilà.
Bien. Alors, je vais passer la parole à Bruno Carsanti, qui ne va pas nous parler de violence et guerre d'un point de vue maussien, mais nous présenter une autre approche de la nation, Marcel Mauss. Bruno Carsanti est philosophe et sociologue. On peut... Ça va, sociologue, non ?
Philosophe.
Philosophe tout court ?
Oui.
Bon, philosophe tout court. Bien. Snob. Mais qui est un des grands connaisseurs de l'histoire de l'école turcaïmienne, on peut le dire, de l'école sociologique française, et qui est par ailleurs l'auteur notamment d'un petit livre qui s'appelle Marcel Mauss, le fait social total. C'est comme ça que j'ai fait, c'est en le lisant que j'ai fait la connaissance de Bruno. Ce petit livre est un bijou de sensibilité maussienne, à conseiller à toutes les personnes qui ne connaissent pas l'œuvre de Mauss et qui veulent entrer dedans. Et puis par ailleurs, il a écrit un plus gros livre, parce qu'il fallait qu'il soit plus gros, puisque c'est Mauss, le phénomène social total. Enfin, c'est ça le titre exact. Voilà. Voilà. Donc il fallait parler de tout. Voilà.
L'homme total.
L'homme total. Voilà. Excuse-moi, cherchez le nom. Bruno, à toi.
Bien. Oui, tout ça. Oui. Bon, ce sont des livres assez anciens. Une question m'a été posée là pendant l'intermède. Sur les raisons de cette ancienneté et du peu d'efforts et de soins que j'ai fait pour travailler dans la même direction les 10 dernières années. Hein,
en effet.
C'est vrai. Hein, et je suis très reconnaissant à Alain de m'avoir invité, c'est-à-dire de ne pas m'avoir oublié. En fait, je peux dire ça comme ça. Pendant toutes ces années où j'ai fait tout autre chose... comment me justifier ? Ben, il y a deux genres de chercheurs. Il y a des chercheurs qui progressent, puis il y a des chercheurs qui régressent. Moi, je régresse. je suis remonté de Mauss à Durkheim en me disant quand même, Durkheim, c'est plus compliqué que ça. De Durkheim, je suis remonté à Auguste Comte en me disant « Comte, quand même, c'est plus compliqué que ça. » Et là, je suis en train d'écrire sur Rousseau, hein, que Comte a beaucoup contesté, en me disant « Quand même, Rousseau, c'est plus compliqué que ça. »
Mais où vas-tu t'arrêter ?
Ben, je me suis dit qu'à la retraite, je serais un spécialiste des présocratiques et que on me... On m'invitera dans un colloque de philosophie ancienne. J'adorerais. Ça n'a jamais été encore le cas. Voilà. Donc, je vous demande d'accepter qu'un chercheur puisse ainsi régresser indéfiniment. Voilà. Donc, je ne sais pas si l'ARS reconnaîtrait un critère pertinent d'évaluation dans ce type de parcours. Voilà. Alors, second préambule avant d'entrer dans le vif du sujet. Je me suis posé la question Mauss vivant. Je n'ai plus travaillé sur le don donc depuis très longtemps, donc je ne parlerai pas du don parce que j'ai oublié. Et Mauss vivant pour moi, dans la période contemporaine, je me suis posé honnêtement la question. C'est au fond la question du socialisme qui m'a préoccupé en raison de la crise que vit le socialisme en Europe et du rôle qu'on peut donner à Mauss dans une rénovation ou un ressourcement des idéaux socialistes. Voilà. Donc c'est dans cette perspective que je vais intervenir. Du coup, j'ai intitulé mon propos « Une autre approche de la nation ». Et je vais me concentrer sur les textes que vous connaissez bien, si vous connaissez l'ensemble de l'œuvre de Mauss, dont je ne traitais pas dans mes livres, qui sont les textes sur la nation, qui ont été enrichis depuis par les textes politiques de Mauss, publiés par Marcel Fournier. Et on lui doit beaucoup, Marcel Fournier, de ce point de vue. Alors, on sait que parmi les livres qu'il projetait d'écrire et qui devait demeurer inachevé, on trouve dans les papiers épars de Marcel Mauss une ébauche consacrée à la nation. Commencée peu après la Première Guerre mondiale, Mauss y dégage une idée de la nation qui est difficilement audible pour nous aujourd'hui et probablement déjà pour les lecteurs d'alors. Ce qui nous est difficile à entendre est le fait que la nation doive se concevoir à travers une double opposition. En fait, c'est cette double opposition qui nous choque. On n'arrive pas très bien à lui donner du sens. Opposition à l'État d'un côté et opposition au nationalisme de l'autre. La nation contre l'État, la nation contre le nationalisme. C'est cette idée qu'il nous faut cerner. Idée qui, en l'occurrence, n'est pas posée a priori, mais dégagée progressivement sur la base d'une vaste enquête empirique sur le développement des sociétés humaines considérées sans restriction. En cela, elle se veut ethnologique et sociologique, et nullement de théorie politique. Elle a pourtant une portée générale, au moins à deux titres. D'une part, on s'aperçoit rapidement qu'elle est en fait destinée à illustrer et à donner une certaine épaisseur à la conception que Mauss se faisait de la société comme telle, ou plutôt du développement nécessaire des sociétés. En second lieu, elle est aussi destinée à justifier une prise de position de ce même sociologue à l'intérieur des sociétés où sa propre analyse se situe, à savoir à l'intérieur des sociétés modernes. En termes clairs, cette définition de la nation est la pierre angulaire de l'engagement socialiste du sociologue qu'a voulu être Marcel Mauss. Mais alors, on doit aussi relever que la perspective adoptée pose plusieurs problèmes de méthode. En somme, il semble que dans ses textes sur la nation, Mauss ait couru consciemment et délibérément un grand risque, celui d'articuler son travail de savant à son propre engagement. Qu'il ait éprouvé le besoin de le faire dans un contexte marqué par la Révolution russe et la Première Guerre mondiale ne tient pas du hasard, évidemment. Si la sociologie mérite plus d'une heure de peine, comme le disait Durkheim, elle doit servir la pratique, à condition toutefois que son statut scientifique soit absolument respecté et qu'elle ne se dégrade pas en art politique ou en science appliquée. Servir à la pratique ne veut pas dire être ordonné selon la pratique. Dans les textes qui nous occupent, Mauss a retenu la leçon, mais il a voulu aussi la soutenir dans ses ultimes conséquences et donc la mettre à l'épreuve. En un mot, il a tenté d'enraciner le socialisme dans la rigueur démonstrative de la sociologie. Louis Dumont, dans l'un de ses essais sur l'individualisme, a entrepris de définir le lien historique qui unit, dès le XIXe siècle, la sociologie et le socialisme. Si on en croit Dumont, je cite, « leur surgissement parallèle et partiellement conjoint ne serait pas tendu à la révolution industrielle qu'à la révolution française ». Par la sociologie, il s'agit de mettre en œuvre la comparaison entre société moderne et société traditionnelle, et donc de présenter, au plan d'une discipline spécialisée, je cite Dumont, la conscience du tout social, qui se trouvait au plan de la conscience commune dans les sociétés non individualistes. Avec le socialisme, on retrouve la préoccupation du tout social, mais elle s'exprime dans le même mouvement où l'on cherche à conserver le legs de la Révolution, et donc en valorisant inévitablement des aspects individualistes, en tout premier lieu, dit Dumont, le concept d'égalité. Il me semble que ce prisme proposé par Dumont est particulièrement fécond pour évaluer les textes maussiens sur la nation.
Orientés vers une justification du socialisme, ils sont en effet commandés par cette double intention de marquer, pour parler comme Dumont, la prégnance de la conscience du tout social dans les sociétés modernes et de recueillir en même temps l'impact des idéaux révolutionnaires, précisément quant à leurs acquis en termes de droits subjectifs. Mais cela suppose, comme je vais le montrer, une vision internationaliste, une mise en communication accrue des individualités nationales que seul le socialisme bien compris est capable d'assumer. Avant d'entrer dans cette pensée de la nation, je voudrais souligner deux points. Le premier est qu'on est ici en mesure de saisir le sens profond de l'intervention politique qui serait propre au socialisme et qui le singulariserait complètement de toute autre formation idéologique. Mauss ne cesse d'y revenir. Le socialisme n'est pas une option politique comme les autres parce qu'elle prend forme, il prend forme au sein de la vie sociale comme l'une de ses tendances constitutives. On sait que dans ses cours, Durkheim reprochait au socialisme d'être un cri, une protestation. S'il avait pour lui l'avantage sur les autres positions politiques d'être effectivement corrélé à un état social réel, il n'avait pas en lui-même la force de s'élever au-delà de cette perception, sinon à rejoindre la sociologie et à se résorber en elle. On peut penser que le socialisme, de ce point de vue, n'est pas une politique, qu'il subvertit le sens qu'on entend ordinairement par politique. Décider d'être socialiste n'est pas dissociable du fait de comprendre scientifiquement le développement social. Alors c'est cela que Mauss va reprendre et va accentuer. Le socialisme est une voie de la réalité, sans médiateur interprétatif. Cette voie directement transformatrice dont, après tout, le matérialisme historique, Marx, avait rêvé de son côté, comme le dit en toutes lettres la 11e thèse sur Feuerbach. Il arrive à Mauss de le dire expressément. Le socialisme est une vision qui prend forme dans une forme de vie sociale achevée. Il est, en un mot, le nom politique d'un mode de collectif, en fait, qui advient nécessairement et dont il faudrait en quelque sorte, et avec toute la tension qu'enferme une telle formule, vouloir la nécessité. Je crois, et j'ai tenté de le montrer par ailleurs dans mon livre sur Durkheim et sur les Durkheimiens, que ce geste spéculatif difficile doit beaucoup aux travaux du juriste Emmanuel Lévy. Alors, je vous invite à découvrir Emmanuel Lévy, grand inspirateur de Mauss sur ce point. Pour Mauss, comme pour Lévy, c'est dévoyer le socialisme que de l'assigner à représenter une vue politique particulière sur la société en surplomb par rapport à celle-ci. De sorte qu'il ne s'agit pas d'aller du socialisme à la sociologie, comme le voulait Durkheim, comme les cours de Durkheim sur le socialisme le laissent penser, mais il s'agit d'aller de la sociologie vers le socialisme, que l'étude des sociétés comprenne l'événement socialiste comme événement social. Notons, pour avoir une perception du contraste ici, avec des théories ou des visions dominantes, qu'il n'y a pas de jugement plus éloigné sur le socialisme de celui-ci que la condamnation que l'on trouve, par exemple, dans les cours de Foucault concernant le socialisme, enfin, concernant plutôt le libéralisme et, je pense, à la naissance de la biopolitique, à propos du socialisme. Foucault, il décrit le socialisme comme une pure idéologie accrochée à la vérité a priori d'un texte, incapable par là même de se développer en mode de gouvernementalité, immergé dans la réalité, comme peut l'être le libéralisme, ce pourquoi Foucault soulignait que le libéralisme a un avantage naturel sur le socialisme. Pour Mauss, l'accusation ne vaut que pour une apparence de socialisme déchirée entre une pure approche critique et une projection utopique. Mais le socialisme réel procède pour lui exactement à l'inverse, donc c'est l'inverse de ce que dit Foucault. Il émerge comme une tendance de la réalité sociale elle-même pour qui sait la lire. Or, la lire correctement, c'est restituer à la nation sa vraie place, en la dérobant aussi bien donc à sa captation étatique qu'à son interprétation nationaliste. Deuxième remarque que je voulais faire avant d'entrer dans le corps de l'argument. Les sociétés deviennent des nations, c'est là un processus dont Mauss, le fait est assez rare pour qu'on doive le souligner, admet le caractère évolutif est nécessaire. Je cite, « Les nations sont les dernières et les plus parfaites des formes de la vie en société. Elles sont économiquement, juridiquement, moralement et politiquement les plus élevées des sociétés et assurent mieux qu'aucune forme précédente le droit, la vie et le bonheur des individus qui les composent. Et de plus, comme elles sont inégales entre elles et comme elles sont fort différentes les unes des autres, il faut concevoir que la révolution est loin d'être terminée. » On reconnaît dans ce passage les deux traits relevés par Dumont dans la figure qui croise socialisme et sociologie. Défense de l'individu et forme de société prise comme un tout. Mais surtout, ce qui surprend dans cette assertion maussienne, c'est qu'elle paraît contrevenir au parti pris anti-évolutionniste de Mauss. Les sociétés humaines, dans leur ensemble, sont réinscrites dans une dynamique unitaire, orientée donc téléologiquement, un mouvement national qui les porte vers une sorte de perfection sociale, vers une sorte de beauté, dit Mauss même. Il revendique le droit de s'émerveiller devant des formations sociales. Et pourtant, dès qu'on s'efforce de caractériser ce mouvement, on voit qu'il n'est unitaire qu'en surface. S'il est doté d'une certaine universalité, c'est à condition de comprendre qu'il engendre en chaque société un mouvement d'individuation qui accentue leur inégalité et leurs différences, de sorte que l'évolution n'aboutit pas à une uniformisation. Loin d'indiquer un achèvement et une stabilisation finale, elle marque plutôt l'apparition d'un nouveau contexte historique, qui est celui de la composition des rapports entre des nations dont la différenciation se fait sans cesse plus forte. C'est là l'internationalisme, qui est à l'opposé du nationalisme en ce qu'il nie par principe le fait que la nation puisse être conçue comme un isolat. Mais il est aussi à l'opposé du cosmopolitisme, qui table sur une disparition du fait national et qui méconnaît par là le fait que la nation soit bien la forme de société parvenue à un certain point de perfection. Tout repose, on le voit, sur une compréhension sociologique de la nation. C'est de là qu'il faut partir, ou du moins repartir. Repartir...
Tu as pris un quart d'heure déjà.
D'accord. Bon, il faut que j'aille très vite alors. Repartir après la guerre 14, pris comme conflit des nationalismes, en un retour critique sur la façon dont la sociologie durkheimienne elle-même avait cru pouvoir aborder le problème. Les textes sur la nation contiennent, de façon discrète mais explicite, une critique de Durkheim. Je vais directement à cette critique de Durkheim. Finalement, la critique qui est faite par Mauss de Durkheim, c'est la critique du concept d'État-nation, hein, et de ce que Robert Castel a plus récemment appelé l'État national-social, tel que le durkheimisme, ou plutôt la vision strictement durkheimienne, celle de Durkheim, a mis en place dans la période de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Si tant est qu'il ait jamais cru à cette vision de l'État national-social, il est certain que Mauss ne peut plus soutenir cette vision après-guerre. Et que le meilleur de son œuvre sociologique, à commencer par l'essai sur le don, peut se lire à travers cet écart. Comment cet écart est-il marqué? Pour Mauss, le XIXe siècle, c'est-à-dire la période qui suit la Révolution française, a été en fait, contrairement aux apparences, la période d'une éclipse de la nation. Il le dit en toutes lettres dans son texte sur la nation. Après la promotion révolutionnaire de la souveraineté populaire, après qu'ont été posés donc, les principes d'un gouvernement de la société par elle-même, l'idée de nation a en fait subi une rechute. Elle s'est convertie en idée de nationalité, ce qui n'est pas du tout la même idée pour Mauss. Quelle est la différence? La nation est pour Mauss intrinsèquement liée à la démocratie. Et l'essor qu'elle prend à l'époque moderne dépend de ce fait décisif, que la révolution soit parvenue à faire passer la démocratie dans les faits. Mais, faisant passer la démocratie dans les faits, elle n'est pas parvenue à introduire des mœurs démocratiques. Et elle a reporté le rêve de la nation sur la figure de l'État. Autrement dit, le concept de nationalité, qui est effectivement le concept dominant à partir du XIXe siècle, est une traduction étatique du vrai concept de nation qui était enfermé dans l'affirmation démocratique. L'opposition au nationalisme se conduit donc sur la même ligne que le combat contre l'étatisme, celui que Mauss voit évidemment prospérer en Allemagne, mais celui aussi qu'il voit très tôt s'affirmer en Russie, à partir du moment où les soviets deviennent des entités de type strictement politique et perdent leur dimension première d'association ouvrière. À quoi faut-il imputer, donc, le mauvais tournant, hein, c'est ça la question. C'est-à-dire, à quoi faut-il imputer la rechute ou l'éclipse de la vraie nation au XIXe siècle ? Alors, ici, la réponse de Mauss se fait extrêmement nuancée. Doit-on dire qu'elle est due à un déficit démocratique ? Oui, à condition de préciser que ce déficit est pris au sens d'une pratique sociale insuffisante des mœurs démocratiques, et en aucun cas au sens d'un déficit quant aux principes politiques du régime démocratique. Car si on considère le régime, on pourrait presque renverser le diagnostic. Un basculement dans une souveraineté populaire affirmée sur le plan purement formel du droit politique risque au contraire de projeter l'État, sur l'État, pardon, toute la force intégratrice qui doit résider dans la nation elle-même, c'est-à-dire au fond, dans la société. Dans le vaste panorama des nations modernes que Mauss dispose sous nos yeux, très peu de nations véritables existent réellement. Et nombre d'entre elles se croient des nations alors qu'elles ne le sont pas. Certes, toutes sont lancées dans une dynamique où elles veulent l'être et où il est juste qu'elles le deviennent. Mais comme elles ne le sont pas vraiment à l'intérieur, de l'intérieur de leur pratique sociale, elles vont chercher des substituts de conscience nationale dans des mythes, exaspèrent artificiellement leur sensibilité, se considèrent en danger, se donnent des ennemis. Le nationalisme, c'est la pseudo-nation, inquiète de n'être pas encore une nation, qui s'en remet tout entière à l'exercice du pouvoir coupé de la société. Il faut pourtant bien s'entendre. Seule la promotion révolutionnaire des droits de l'homme a rendu possible une certaine réalisation du fait national, sur des bases que ne pouvaient pas connaître, les sociétés qui n'avaient pas accédé aux principes démocratiques, c'est-à-dire à la souveraineté populaire. Qu'a-t-il donc manqué pour que la nation ne se laisse pas capturer par l'État ? C'est ici que la réponse de Mauss se fait socialiste. Il lui a manqué une forme de conscience de soi qui passe d'abord par le plan de l'intégration économique. Il lui a manqué cette sensibilité, cette appartenance et cette citoyenneté développées au niveau des pratiques économiques. Il a manqué en bref aux nations modernes de penser leur économie à un niveau où se réalise l'idéal démocratique. Seul ferment de ces formes sociales achevées que Mauss appelle des nations et qu'il dit trouver belle. La socialisation de l'économie peut prendre différents biais, emprunter différents chemins, se poursuivre par de multiples moyens. Une chose est sûre, elle ne peut pas être accomplie par d'autres forces que les forces sociales elles-mêmes, les agents économiques réels, dans les associations qu'ils forment. Ce qui se joue alors au niveau économique, c'est toujours l'intégration de type démocratique. Et c'est encore la dévoyer que d'attendre de l'État la prise en charge de l'organisation du marché et de la production. Il n'y a de socialisme pour Mauss qu'à travers ce qu'il appelle une nationalisation de l'économie, mais à condition de préciser que la nationalisation, encore une fois, est une auto-organisation des forces productives et donc exactement le contraire d'une étatisation. Alors, je conclus. Pour nous, les discours de Mauss, dont j'ai rappelé la trame et les intentions profondes, sont difficilement transposable aujourd'hui. La charge sémantique dont il veut doter le concept de nation nous paraît trop lourde pour ce concept. Peut-être parce que la suite de l'histoire nous a appris, et sûrement parce que la suite de l'histoire nous a appris, que le nationalisme était plus puissant, plus dangereux encore que Mauss n'était porté à le croire, et qu'il était au fond suspect d'emporter avec lui l'idée de nation elle-même. Au moment où la SDN se fonde, on se dit alors qu'un optimisme était requis et qu'il était somme toute méritoire. Mais on ne croit plus à l'adéquation du mot de nation à cette forme pacifique de vie, dans un ordre national qui est au fond un ordre intersocial, c'est comme ça que Mauss traduit international dans le texte sur la nation, intersocial, des formes de société les plus achevées qui puissent exister. Et pourtant, sous un autre aspect, la casuistique de Mauss se présente aussi à nous comme une tâche. C'est là que je me suis donné la tâche de répondre à Mauss vivant, ou pas. Elle se donne à nous comme une tâche si l'on rappelle que sous le mot de nation, Mauss a cherché à rendre visible et compréhensible un sens profond et inaperçu par la théorie politique du mot « démocratie ». La démocratie, non comme configuration de pouvoir ou type de régime, mais comme forme de vie, qui repose sur une sensibilité accrue à des pratiques communes, conscientes d'elles-mêmes, dans ce qu'elles ont précisément de communes, et conscientes du même coup, du type particulier de collectif qu'elles tracent et dont elles actualisent la forme. Penser ainsi la démocratie, pour Mauss, c'était penser en socialiste. Par là, il anticipait une exigence qui s'impose peut-être plus encore aujourd'hui dans une situation où le socialisme cherche sa voie, étouffé entre un étatisme toujours plus accusé et un développement économique toujours plus désocialisé.